Je connaissais Pika, donc Pierre Tranchant, le dessinateur de la série, depuis un certain temps. On cherchait une idée de BD qu'on pourrait éventuellement placer dans le journal de Mickey parce qu'on y travaille tous les deux. Ça n'a pas, disons, déclenché l'enthousiasme tout de suite parce que pour les gens de chez Mickey, c'était peut-être un petit peu trop adulte. Et en parallèle, on est allé donc le proposer à des éditeurs qui, eux, nous disaient que c'était peut-être un peu trop enfantin.
Bienvenue dans L'Heureux Processus, une discussion autour des processus de création, de production et de diffusion d'œuvres et de projets culturels à succès. Par quel travail d'alchimie l'idée de l'œuvre germe-t-elle dans l'esprit des auteurs et des acteurs de la création culturelle? Quelles sont les différentes étapes, métiers, méthodes et outils mis en place pour aller de cette étincelle à la réception de l'œuvre auprès d'un public? J'ai découvert la série de bande dessinée Les Profs très jeune dans le journal de Mickey, autour de l'année 2000. C'était une seule planche coincée entre un mini-jeu et un Donald. J'ai très vite accroché à cette galerie de professeurs de lycée et à leurs mésaventures gaguesques. Voir des figures d'autorité ridiculisées devait amuser le jeune écolier que j'étais alors. J'ai acheté chacun des premiers albums, à leur sortie, jusqu'à ce que mes goûts évoluent vers d'autres horizons bédéphiles, au point que l'achat fasse plus plaisir à ma mère qu'à moi-même. C'est finalement elle qui a récupéré les albums et poursuivi la collection jusqu'à aujourd'hui. J'y suis pourtant revenu il y a quelques années à l'occasion d'un mémoire que je rédigeais portant sur la représentation des enseignants dans la BD franco-belge. Vaste sujet. J'ai alors eu le plaisir d'échanger avec Pika, le dessinateur de la série. Série que donc j'ai pu redécouvrir sous un jour nouveau. Si ces mécaniques comiques reposent assez largement sur une vision caricaturale de l'enseignement, la part belle est également faite à l'actualité du milieu, à des sujets sensibles tels que la crise de l'école ou encore le malaise enseignant, dans une lecture réaliste et sociale, presque journalistique, de la profession. Dans ce deuxième épisode, on va se demander comment écrire et comment éditer une série de bandes dessinées d'humour et tout public, au point de devenir un incontournable du genre, et d'être le moteur de l'éditeur, Bambou Édition, qui est aujourd'hui un des cinq plus grands éditeurs de bandes dessinées francophones. Je suis donc à Radio Campus Paris, en présence de Gilles Cor, aussi connu sous le nom de Eroc, donc le scénariste des profs chez Bambou Édition. Donc voilà, toujours chez Bambou Édition, tu es entre autres le scénariste de Boulard, donc la série dérivée des profs, on peut dire ça, série dérivée.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et tu es aussi le scénariste et dessinateur de Raoul et Fernand.
Oui.
Voilà, et puis tu es entre autres, encore une fois, par ailleurs, le scénariste des nouvelles aventures de Cubitus chez Le Lombard.
Au Lombard, oui.
Voilà. Donc. Entre autres, hein,
entre
c'est
autres.
Pour. Bon. Et puis je suis également avec Nazir Mena, chargé des relations presse à Bambou Édition.
C'est ça.
Voilà, donc bonjour à vous deux, merci d'être là. Est-ce que, donc dans un premier temps, Eroc, tu pourrais présenter ton parcours? Et est-ce que tu pourrais présenter après ça les profs, rapidement? Et dans un second temps, Nazir, est-ce que tu pourras également présenter ton parcours et peut-être aussi présenter Bambou Édition, voilà, sommairement?
D'accord, écoute, moi j'ai commencé la BD il y a très longtemps, puisque c'était en 1988, et je n'ai pas commencé dans l'édition, c'est-à-dire que j'ai travaillé d'abord dans les journaux. Donc j'ai travaillé dans un journal qui s'appelait Pif Gadget, puisqu'il n'existe plus. Donc c'était un journal qui avait la particularité donc d'avoir un gadget, et surtout des BD jeunesse, quoi, pour à peu près les 9-13 ans. En fait, le même public que le journal de Mickey. Donc moi, j'ai travaillé 3 ans chez Pif. Je suis parti parce que le journal, lui, est parti aussi, c'est-à-dire il s'est arrêté en 92. Et après, donc naturellement, je me suis retrouvé au journal de Mickey, qui était le concurrent direct. Et là, donc à cette époque-là, je ne travaillais pas sur mes propres personnages. C'est-à-dire que j'ai un peu appris mon métier en faisant des scénarios, en dessinant d'ailleurs aussi, mais surtout de plus en plus en faisant des scénarios avec des personnages maison. Et notamment chez Disney, j'ai animé les personnages que tout le monde connaît, quoi, Mickey, Donald, Patty Buller, Dingo, voilà. Alors en ce qui concerne les profs, c'est dans le journal de Mickey que ça a commencé parce que je connaissais Pika, donc Pierre Tranchant, le dessinateur de la série, depuis un certain temps. On cherchait une idée de BD qu'on pourrait éventuellement placer dans le journal de Mickey parce qu'on y travaille tous les deux. Et voilà, on a proposé cette idée-là. Ça n'a pas, disons, déclenché l'enthousiasme tout de suite, parce que pour les gens de chez Mickey, c'était peut-être un petit peu trop adulte. Et en parallèle, on est allé donc le proposer à des éditeurs qui, eux, nous disaient que c'était peut-être un peu trop enfantin. Donc, il y a une espèce de période de flou où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là ? Alors, assez rapidement, quand même, le journal de Mickey, comme on y travaillait, nous l'a publié. Et là, je sais pas, je vais peut-être un peu, par rapport à ta première question, je vais trop loin ou...
Non, bah oui, en fait, c'est vrai qu'on va revenir après peut-être en détail sur les débuts de Les Profs, mais...
D'accord, donc bah, Les Profs, donc ça a commencé en, je sais plus, en 98 ou 99. Alors, la différence entre Pika et moi, c'est qu'il connaît exactement les dates, il sait exactement dans quel numéro le premier gag est paru, moi, non. Mais en tout cas, on a dû lancer ça en 98, c'est paru la première fois en 99 dans Mickey, et voilà, avant la grande aventure Bambou. Alors Les Profs, là, c'est une BD en fait qui... L'idée première, c'était que dans la bande dessinée, il y avait beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que déjà à l'époque, il y avait l'élève du Cobu, il y avait Titeuf. Avant, il y a eu plein d'enfants dans la BD, dans les BD, les journaux comme Spirou, Tintin, etc. Et en fait, quand on voyait un enseignant, c'était toujours un personnage secondaire. Et il se trouve qu'à l'époque, moi, j'habitais à côté d'un collège où j'avais des copains qui travaillaient au collège du coin. Donc voilà, l'idée des profs, c'était de prendre le contre-pied. Alors, j'ai rien inventé, il y a déjà eu des BD mettant en scène des profs. En tout cas, moi, j'en connaissais pas, j'en avais jamais lu. Et donc, je me suis dit, je vais faire une BD humoristique où on va mettre en avant les profs et pas les élèves. Le concept du début, d'ailleurs, ça n'était que des profs. C'est-à-dire que je voulais qu'on ait un décor unique comme au café-théâtre, avec une salle de classe, avec des profs qui ont des problèmes, qui rentrent et qui sortent, mais on aurait eu un décor unique. Et puis, j'ai fait 3-4 gags, je me suis rendu compte que graphiquement, c'était une tristesse terrible pour le dessinateur. Et puis, je pense tout simplement que les enfants s'y seraient pas retrouvés non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que notre lectorat, c'est un peu tout le monde, je dirais, des enfants, des adultes. Mais si j'étais resté sur cette idée-là, je pense qu'on aurait eu que des enseignants quoi, qui ont été vraiment concernés par ça. Voilà. Donc le concept, c'est ça. Ce sont des gags d'une planche qui mettent en scène des enseignants toujours au même endroit. C'est-à-dire que si on devait comparer, c'est comme Gaston Lagaffe, il travaille aux éditions du Puy, chez Spirou, et puis il est avec ses collègues de bureau et ça se passe toujours au même endroit. Donc nous, notre premier héros, c'est un lycée moyen, on ne sait absolument pas où il est, on ne l'a absolument pas situé justement pour que personne essaye de dire « oui, mais chez moi, ça ne se passe pas comme ça ». Donc c'est un lycée quelque part dans une petite ville en France. On ne sort jamais de ce lycée. Par contre, on suit la vie de tous ces profs. Certains ont disparu, certains se sont arrivés. Voilà, c'est une équipe d'enseignants. Il leur arrive tout un tas de choses. Alors, on est dans la caricature, mais on essaye aussi de parler de choses qui peuvent parfois résonner pour les enseignants parce que ça les concerne, quoi. Des fois, on tape juste, je pense. Enfin, j'espère.
Super. Eh ben, merci.
Alors, je commence par moi. Du coup, je m'appelle Nazir Mena. Je suis donc attaché de presse pour Bambou Édition. Ça fait 4 ans maintenant. Très sommairement, mon parcours, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée, donc rien à voir avec l'édition. Mais étant passionné de BD depuis mon plus jeune âge, j'ai essayé d'y entrer le plus rapidement possible. Donc, juste après mes études, j'ai commencé en stage aux éditions Delcourt. Après, j'ai enchaîné avec un autre stage aux éditions Kana, donc plus spécialisé en manga.
Okay.
J'ai fait un petit détour par la maison d'édition Ankama, qui est le producteur du jeu vidéo Dofus aussi, pour au final poser mes bagages chez Bambou Édition depuis 4 ans maintenant.
Okay.
Donc pour revenir sur l'histoire de Bambou Édition, mais de manière sommaire ce coup-ci, Bambou Édition, c'est une maison d'édition qui a plus de 20 ans d'existence maintenant. On a fêté les 20 ans l'année dernière. Elle a été créée par Olivier Sulpice, un grand fan de bande dessinée humoristique. C'est vraiment un héritier de l'école du Puy, de toutes ces BD à sketch. Et c'est ce qu'il a essayé de reproduire avec les premières bandes dessinées Bambou, qui étaient des bandes dessinées humoristiques, toujours, parce que ce qu'il adore, c'est le strip, mais avec une vraie volonté de faire des thématiques, comme les thématiques job. On a des séries comme Les Gendarmes, ouais. Des thématiques plus tournées vers le sport, comme des séries Les Rugbymen, par exemple, Les Footmaniacs. On a aussi des séries jeunesse, comme Les Sisters ou Les Profs, aussi. Et alors ça, c'est juste pour notre volet humour, mais on a aussi une collection plus centrée sur le roman graphique qui s'appelle Grand Angle, où là, on va publier plus des romans graphiques, des adaptations littéraires, des paginations plus grandes. On s'intéresse aussi au manga avec notre branche Lokidoki, qui est un éditeur de manga japonais et de manga coréen depuis 12 ans maintenant. Plus récemment, on a Bamboo Édition a racheté Flux Glacial, le célèbre magazine satirique, avec qui on collabore maintenant depuis un an. Et à venir là en septembre, Olivier Sulpice lance encore une nouvelle maison d'édition qui s'appellera donc Draco, qui est montée avec Christopher Leston, qui est le scénariste de Landfest. Et donc là, ça sera une maison d'édition qui est tournée vers les univers de l'imaginaire, donc tout ce qui tient de la science-fiction, de la fantasy, ce que pour le moment, on ne faisait pas trop dans le catalogue. Voilà, très sommairement, Bamboo Édition.
Super, merci. La première question que je pose tout le temps, c'est est-ce que du coup, il y a une histoire derrière l'idée des profs ? Dans ce cas-là, est-ce qu'elle vient plus, cette idée-là originelle, est-ce qu'elle vient plus de Pika, de toi, Aerok ? Est-ce que c'est un peu vous deux ? Est-ce que c'était le journal de Mickey, l'éditeur, un peu de tout ça ?
Alors là, en l'occurrence, c'est vraiment moi, parce que je te dis, je cherchais une idée de série. Et alors, je ne sais pas si c'est uniquement parce que mes voisins étaient profs, mais enfin, ça a dû aider un peu, influencer, parce que c'était des jeunes profs qui venaient de province pour la plupart, et donc je vivais en banlieue, hein. Dans une banlieue relativement calme, mais les premières discussions que j'ai eues avec eux, c'était terrible, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient une espèce d'inquiétude chevillée au ventre. Et donc, leur première année en banlieue, c'est le lot commun à la plupart des profs en France. Et donc, il y a une période donc, où je discutais énormément avec eux et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que l'idée des profs est venue. Après, Pierre, il était très partant. C'est-à-dire que quand je lui en ai parlé, parce que là aussi, quand on fait une bande dessinée, il faut que le couple scénariste-dessinateur soit d'accord et ait envie de faire la même chose. Surtout si on fait une série qui est censée durer un certain temps. On ne peut jamais savoir au départ si on va faire 2 albums, 5 ou 12, mais a priori, on part pour un certain temps, donc il faut qu'on parte déjà sur la même longueur d'onde, qu'on ait envie de faire la même chose, et puis qu'on ait vraiment envie de développer le même sujet. Voilà. Donc, Pical était tout à fait d'accord, lui, mais il disait on ne va jamais y arriver parce qu'il faut être à l'intérieur, il faut, faut travailler dans l'éducation nationale pour pouvoir faire des gags marrants sur le sujet. Et je pense qu'il n'avait pas tort, mais je lui ai dit, à l'époque, mais non, pas du tout, il n'y a pas de problème, on va y arriver. Et donc, ce que j'ai choisi, justement, c'est d'être quand même toujours dans la caricature, pas dans la tranche de vie réelle. C'est-à-dire que à l'époque, déjà, je me suis dit, je ne vais pas recueillir ce que vont me dire mes copains, mes voisins sur leur boulot, parce que là, j'aurais fait une sorte de catalogue de choses qu'on m'aurait racontées. Puis au bout d'un moment, je serais tombé, quand j'aurais plus eu d'anecdotes, je n'aurais plus rien à dire. Je me suis dit, en partant par contre de ces discussions, j'invente des personnages à moi, et puis je leur fais vivre des choses qui vont être inspirés par ce qu'on m'a raconté, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Ce n'est pas reprendre quelque chose, c'est reprendre une ambiance, quoi, une atmosphère générale. Donc les profs, ça s'est construit là-dessus, quoi. Alors, on a l'un et l'autre inventé des personnages, moi d'un point de vue des caractères, lui d'un point de vue graphique. La difficulté qu'on avait, c'est que très souvent dans une BD, on a un ou deux héros, et les personnages accessoires, ils arrivent après, au fur et à mesure, tranquillement. Et nous, il fallait qu'on en ait au moins une dizaine dès le début, quoi. On ne pouvait pas avoir un lycée avec 3 profs. Donc du coup, on a été un peu pris par le temps. Donc il y en a certains qu'on a gardés, il y en a certains qui ont disparu parce qu'ils n'étaient pas intéressants. Voilà. Moi, au début, j'ai dit, tiens, je vais trouver plein de choses à faire avec celui-ci. Et puis je me rendais compte que sur la durée, ça n'avait pas un grand intérêt. Donc en fait, on a une espèce de noyau dur qu'on a trouvé dès le début et qui est encore là. 5-6 personnages qui donc étaient bien pensés, je pense, dès le départ, sinon ils auraient disparu. Et puis après, y en a eu plein d'autres qui sont arrivés entre-temps ou qui sont repartis.
Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. On est avec Erok et Nazir et on parle de la BD Les Profs. On va rentrer dans la partie créative. Et là, c'est le moment où je pose la question très naïve. Comment on fait comment on écrit une bande dessinée d'humour ?
En fait, a priori, on part de... Moi, je pense que tous les scénaristes ont leur truc à eux. Donc, c'est un peu difficile. On ne peut pas en tirer une généralité.
Oui.
Moi, je cherche une idée de plusieurs façons. C'est-à-dire, soit je pars d'une situation, soit je pars d'un truc que j'ai entendu, soit je pars d'un personnage. Là, je te disais, on en avait une dizaine dès le départ. Et des fois, je me disais, tiens, lui, on ne l'a pas beaucoup vu. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver ? Parfois, ça pouvait être un truc que je lisais dans un journal. Disons qu'à partir du moment où tu fais une série sur un sujet, tu es toujours un petit peu à l'affût de ce que tu vas pouvoir entendre, lire sur le sujet. Donc j'avais toujours un œil qui traînait dès que j'entendais parler d'éducation à la télé. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais aujourd'hui, je le fais encore. Par exemple, je continue à regarder, je vais me balader sur des sites, voir un petit peu les réformes en cours, ce qu'en pensent les profs, etc.
C'est un état de veille permanent, en fait.
Bah, oui, parce que comme ça, on peut... Il suffit d'un tout petit truc des fois, hein. C'est vraiment une petite anecdote de deux lignes et tu dis ça, je vais en faire quelque chose. Alors, le souci des gags, c'est qu'on grille énormément d'idées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, une page, c'est une idée et la page d'après, on repart sur une autre idée. Donc, contrairement à l'histoire longue où on trouve une idée générale qu'on va développer, moi, je trouve des petites idées que je vais développer sur une page. Donc, il ne faut pas que je grille une très, très bonne idée. En me disant, tiens, c'est dommage parce que celle-là, je l'ai mal exploitée, par exemple, et je ne peux plus le refaire puisque ça y est, je l'ai fait, quoi. Donc, le truc, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où j'ai un embryon d'idée, eh bien, je colle cette idée-là sur mon univers. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'adapte à mon univers. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un se dise en lisant Les Profs, oh, le gars, il voulait parler de ça, mais ça ne correspond pas au personnage. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus.
Ouais, ouais.
Tu vois, c'est qu'il faut que ça, toujours que ça corresponde au personnage. Donc, quand j'ai une idée, je fais un casting comme au cinéma, c'est-à-dire, il va se passer ça, j'ai besoin de qui ? Alors, je prends, j'ai besoin de mon prof d'histoire, par exemple, j'ai besoin de Boulard qui est le cancre, et je vais besoin d'un troisième prof. Je vais prendre, voilà. Je fais un petit casting, je sais que j'aurai ces personnages-là. Et à partir de ce moment-là, c'est compliqué, c'est un jeu de Lego, quoi. Je commence à les faire agir entre eux. Je fais des petits morceaux de dialogue entre deux cases. Et puis, je sais qu'en général, je sais toujours comment ça va se terminer. Mais parfois, j'ai des trous au milieu. Je vois bien comment ça débute. Et puis, des fois, je me dis, j'ai pas la matière à faire une page entière. Et je vais rajouter des morceaux. Et puis, au bout d'un moment, ça s'imbrique, en fait. Et quand j'ai imbriqué mes pièces de Lego, parce que c'est vraiment ça, mes cases, là, je refais le tout, c'est-à-dire que je redialogue le tout comme une scène de théâtre, quoi, ou de cinéma. Voilà. Je sais exactement combien je vais avoir de cases dans ma page et je fais un dialogue avec mon fameux casting que j'ai fait au départ. Donc ça, je le fais d'une façon à l'ancienne, hein, sur une feuille de papier A4 avec un bic. Je fais un petit storyboard, c'est-à-dire que je dessine toutes les cases avec des petits bonhommes rapides, des petits croquis. Et à partir où ça tient la route, eh bien, j'envoie ça à Pika En fait, le plus difficile, c'est qu'après, ça ressemble à quelque chose, quoi. C'est-à-dire, c'est le travail du dessinateur, mais on part de petits croquis avec des petits personnages qui flottent dans l'air. Et puis, d'un seul coup, il faut que ça ressemble à des classes, il faut que ça ressemble à du mobilier, à des vrais décors, voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
Bah oui, complètement. J'ai des petites questions un peu plus précises qui vont compléter, je pense, parce que oui, voilà. Par exemple, je voulais te demander comment tu travailles exactement avec Pika. Est-ce que vous avez une façon de bosser ensemble ? Est-ce que vous êtes toujours à côté ? Est-ce que vous pouvez...
Alors déjà, on n'est pas à côté parce que physiquement, on est loin.
Voilà, mais ça en fait, hop.
Mais non, parce que lui, il habite dans le sud de la France. Moi, j'habite à Paris. Donc, en fait, dès le départ, quand on a discuté de cette série ensemble, on s'est posé la question justement de savoir comment on allait fonctionner. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, est-ce que tu veux apporter des idées ? Est-ce que tu veux quand même participer ? Est-ce que tu veux participer au scénario en apportant des choses, des personnages, des idées, etc. Et lui, m'a dit le moins possible. C'est-à-dire qu'il, lui, voulait se consacrer au dessin. Et donc, il me faisait confiance sur la partie scénario. Ce qui fait qu'effectivement, depuis 20 ans, de temps en temps, il me disait, ah, j'ai lu un truc, j'ai vu quelque chose. et il me donnait un embryon d'idée ou un sujet. Donc il y a certaines des histoires où il est à l'origine du gag. Mais en fait, sur les 22 albums, il y en a peut-être 5 ou 6, quoi. Pas plus. Il a toujours voulu se consacrer uniquement à la partie graphique. Donc, et c'est pareil, moi, je ne me suis jamais autorisé, j'allais dire, à intervenir sur la partie graphique, ou alors très rarement. Parce que, surtout quand on travaille avec quelqu'un depuis longtemps, on se connaît bien. Donc, en fait, quand je faisais un gag, je savais à peu près comment il allait rendre ça. Et parfois, c'est arrivé rarement, mais je me disais, tiens, là, je trouve que ça n'a pas le punch que ça pouvait avoir, ou on aurait peut-être pu le traiter autrement. Bon, comme on se connaît bien et qu'on est amis, on en discutait tranquillement, quoi. Mais ça, si tu veux, c'était rarissime, quoi. Aussi bien de son côté, les apports d'idées que moi, des réflexions sur son boulot. Alors, réflexion, ce n'est pas le terme, hein, mais... De toute façon, j'allais dire, on avait intérêt tous les deux à ce que le gag soit réussi, quoi. Donc c'est ça qui nous motive à chaque fois.
Et justement, on parlait du storyboard. Est-ce que ça lui... Enfin, à quel point c'est indicatif ou à quel point c'est quelque chose qui reprend? Est-ce que ça l'aide?
Alors c'est intéressant comme question parce qu'il y a des dessinateurs que ça ennuie. Moi, je travaille avec d'autres dessinateurs qui ne veulent pas de storyboard.
Ah oui.
Parce que ils ont l'impression que ça les contraint, que ça les bride. C'est-à-dire que dans un storyboard, tu as quand même déjà pas mal d'indications. Moi, en plus, c'est vrai que j'ai le tort de faire des storyboards un peu détaillés. Donc, pour un dessinateur qui aime travailler sur la base d'un storyboard, c'est pas mal, parce que c'est déjà un gain de temps. Et c'est vrai que Pika aimait bien ce principe-là, parce que quand il recevait mon gag, il avait la situation et... Après, lui, son boulot, c'était de rendre ça réaliste. Voilà. Mais voilà, il savait exactement ce qui allait se passer. Déjà, très rapidement, en lisant le gag, il voyait où ça se situait. Et donc, après, lui, son travail, comme je disais tout à l'heure, c'était de rendre ça vrai. Par contre, effectivement, il y a des dessinateurs que ça peut gêner parce qu'ils ont l'impression qu'on leur retire une partie de leur travail, quoi.
Ouais.
Donc, dans ce cas-là, les scénaristes qui travaillent avec des dessinateurs qui n'aiment pas les storyboards décrivent le gag avec les dialogues, sans simplement s'en céder de dessin, quoi.
Et justement, toi, inversement, à quel point ça t'aide à quel point c'est important de savoir représenter et peut-être mettre en forme ces gags pour les imaginer, pour les...
Moi, je pense que moi, je pense que si on est scénariste humoristique, c'est quand même bien de savoir un peu dessiner.
Ouais.
Y a évidemment certainement plein de contre-exemples, mais le gag, c'est il faut qu'on puisse voir rapidement si ça fonctionne. Et c'est vrai que, à mon avis, on ne voit rapidement si ça fonctionne que si on fait des petits dessins pour s'aider, quoi.
Ouais.
Moi, je reconnais que si j'écris un gag, si je ne le mets pas en forme de storyboard, sous forme de storyboard, je ne suis pas certain qu'il soit réussi. Alors, attention, c'est très prétentieux. Certain qu'il soit réussi. Non, ça veut dire qu'au moins, quand j'ai fait mon petit storyboard et que je l'envoie au dessinateur, pour moi, c'est ce que je voulais faire. Après, effectivement, il peut être plus ou moins réussi, il peut être plus ou moins drôle. D'ailleurs, Pierre, je sais bien, en discutant des fois après, c'est ça qui est marrant, il y en a certains que je lui ai envoyés, j'étais vraiment très content de moi en me disant « celui-là, il est vraiment super ». Et puis après, en discutant, je me suis rendu compte que c'était d'autres qu'il avait préféré, que moi, je trouvais plutôt moins drôle. C'est-à-dire que le dessinateur, en recevant le gag, il n'a pas forcément le même ressenti que moi. Donc, mais je trouve quand même que quand on fait un petit storyboard sur un gag, on a déjà le petit gag, on voit s'il fonctionne. Disons que moi, je peux difficilement travailler autrement. Voilà.
Et d'ailleurs, j'ai vu que tu t'étais présenté comme un dessinateur médiocre. À mon avis, c'est tout à fait faux.
Moi, je me suis présenté comme
un dessinateur
médiocre.
J'ai lu ça, ouais.
Fausse modestie. Non, là, en fait, par rapport au dessin, moi, j'aime bien... Je suis pas un dessinateur pour une raison simple. C'est qu'un dessinateur, il peut passer 12 heures sur une planche.
Ouais.
Il prend son pied. Il adore ça. Il rajoute des petits détails dans les coins. Il voit pas le temps passer. Bon, moi, j'ai pas mal dessiné au début de ma carrière. Et aujourd'hui, quand j'ai fait un petit croquis vite fait avec les personnages, pour moi, le dessin, il est terminé. Si je devais refaire la même chose, déjà, je n'aurais pas le talent des dessinateurs avec lesquels je travaille, parce que ça, je le pense vraiment. Et c'est surtout que je referais quelque chose et ça ne m'amuserait pas. Voilà, je pense que je ne suis pas un vrai dessinateur pour ça. J'adore utiliser le dessin. La série que je fais tout seul, Raoul et Fernand, je le fais tout seul, mais c'est vraiment un dessin très simple. C'est-à-dire que je ne pourrais pas passer des heures sur des cases. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je suis un dessinateur médiocre, mais en tout cas, je suis un dessinateur feignant.
Bon, et en guise de transition pour la prochaine partie, petite question sur en fait, comment tu travailles avec l'éditeur et d'ailleurs avec Bamboo Édition. Est-ce que par exemple il a un... enfin déjà comment vous quelles sont les modalités en fait de vos échanges?
Alors après au début j'allais presque dire que ça s'est fait un peu tout seul parce qu'Olivier de toute façon il nous a fait confiance parce qu'il a eu beaucoup de pages d'un coup. C'est comme on publiait dans un journal. Ouais. Il n'a pas eu à nous tester sur des pages. Moi, en général, je continue à lui envoyer mes scénarios. Il me donne son avis ou il ne me le donne pas parce qu'il n'a pas le temps ou fait autre chose. Et puis, bon, ça lui est arrivé de me dire « Oh là, il faudrait peut-être changer ça ou ça. » Et en général, je n'en tiens pas compte.
Okay.
C'est pas bien. Hein. Non, mais on discute. Voilà, ce qui est très bien, c'est que l'éditeur, c'est tout à fait normal qu'il ait son avis. C'est très bien d'avoir un échange. Je ne pense pas qu'il ait le même échange avec tous les auteurs. Chaque auteur a son rapport avec son éditeur.
Ouais.
Et voilà, nous, ça se passe comme ça depuis longtemps. Très bien. Et oui, non, je continue à lui envoyer les scénarios avant de les envoyer au dessinateur. Ouais.
Ok. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. On est avec Erok et Nazir et on parle de la BD Les Profs. On aborde la partie édition. Donc là, c'est le moment où je pose la deuxième question naïve, c'est-à-dire quel est le rôle de l'éditeur et un peu la même question, quelles sont les principales étapes?
En fait, je vais à peu près répéter ce que tu vas dire. Hein.
Ah ouais? Bah écoute.
À peu de choses près, je vais répéter ce que tu vas dire. L'idée vient de l'auteur qui en discute avec l'éditeur. L'éditeur accepte de signer ce projet-là. Mmh. Je vais la faire très court. Hein. Donc, avec la relation avec l'auteur et l'éditeur se fait, il décide de la pagination de l'album, de la couverture de l'album. Le maquettiste se charge de mettre en page, lettrer, ce qu'on appelle lettrer les bulles de dialogue, et vraiment mettre en page l'album. Le chef de fabrication décide de la qualité du papier, de la qualité du papier, chez quel imprimeur il va faire imprimer sa bande dessinée. On passe au pôle commercial, on va dire entre guillemets, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans, qui va faire effectivement les estimations de tirage, mais ça c'est en lien direct avec la diffusion pour le coup. Le pôle relations presse communication, on est là pour faire en sorte de faire parler un maximum des ouvrages. Le pôle événementiel qui est là pour assurer des dédicaces en librairie et des événements en salon. Et en dernier, la distribution qui correspond à amener le bouquin de chez l'imprimeur directement sur les tables des libraires.
C'était très clair, bravo Nazir, c'était bien.
Bon, et du coup, combien vous êtes dans cette partie édition? Du coup, est-ce que du coup l'éditeur, on entend par éditeur tous ces métiers-là, ces pôles-là, ou est-ce que...
Alors, l'éditeur, c'est vraiment un poste très précis. L'éditeur, c'est Olivier, par exemple, c'est son rôle avec... c'est l'éditeur de Gilles. Donc lui, c'est vraiment de faire en sorte que le bouquin existe. L'édito, c'est ce qu'on appelle l'édito, par contre, c'est la cellule où là, il y aura l'éditeur, son assistante éditoriale aussi,
ouais.
Mais les graphistes peuvent être aussi inclus dans l'édito. On va dire que c'est vraiment toute la partie artistique, et encore je mens un peu en disant artistique, parce qu'il y a une partie administrative, parce qu'elle va aussi gérer tout ce qui tient des contrats d'édition, les contrats avec les auteurs, le rendu des planches, et ça c'est plus de l'administratif que de l'artistique à proprement parler.
Ouais. Il y a ce mélange entre éditorial et administratif. Quoi.
Voilà, mais ouais. Éditeur, c'est vraiment un poste, un métier très précis.
Ok. Et du coup, vous êtes combien dans cette partie-là? Et j'ai envie de dire, comment vous, comment vous travaillez ensemble? Est-ce que c'est, je sais que c'est une question assez large et parfois assez dure à répondre, mais est-ce que vous avez fait majoritairement des réunions? Est-ce que vous avez une méthode de travail ensemble? Est-ce que vous utilisez des outils particuliers?
Alors ouais, c'est un petit peu compliqué de répondre comme ça, donc on va essayer de prendre un exemple d'un bouquin, d'une sortie de bouquin, d'une sortie de tome 1. Chez Bambou, on est maintenant on est entre 60 et 70, parce qu'on a notre propre force de diffusion maintenant, mais on reviendra après sur ce qu'est la diffusion. Alors, on va partir, on va partir du principe que le travail auteur, éditeur a déjà été effectué. Ils ont signé un contrat, ils vont faire un album, ils rendent les planches à l'éditeur. Et la partie où nous, on commence à rentrer en jeu, c'est ce qu'on appelle pendant les réunions commerciales. L'album est déjà quasiment prêt, il va sortir dans 4 mois, on va dire. Okay. Une réunion commerciale, c'est une réunion où un petit peu tous les acteurs vont être invités. L'éditeur présente son album en disant voilà, on va simuler la sortie du tome 1 des profs. On a cette nouvelle série qui sort en janvier. Okay. C'est donc une série d'humour. C'est l'éditeur qui présente la plupart du temps cette série. Très souvent, il y a les auteurs qui sont invités à présenter leur propre série aussi. C'est très sympa que les auteurs la présentent eux-mêmes. Et donc, il va la présenter aux commerciaux, qui vont, eux, aller se rendre dans toutes les librairies pour présenter cette série. Ils vont la présenter au service communication aussi, donc les relations presse, mais aussi, on n'a pas parlé du community management, mais maintenant, c'est un métier qui a de plus en plus d'importance dans les maisons d'édition, au service événementiel. Et en fait, à partir de ce moment-là, on va dire que tout le monde est au courant que cet album va sortir et chacun va avancer. On n'avance pas tous au même rythme, on n'a pas tous les mêmes deadlines. Et on va avancer, disons que pour les 4 prochains mois, chacun va travailler dans son coin, façon de parler, va travailler dans son coin pour faire son travail. Et disons qu'au bout d'un mois, on va se refaire une réunion pour savoir qui a avancé dans quel domaine. Pour la presse, par exemple, ça sera... On a envoyé ce qu'on appelle des épreuves. C'est des bandes dessinées imprimées sur papier à des journalistes. Et ça nous donne déjà une tendance. Une tendance en nous disant, la thématique de cet album, sur l'épreuve, par exemple, ça va être la scolarité. Donc, on va, dans un premier temps, contacter la presse spécialisée bande dessinée, vraiment qui fait que de la bande dessinée, mais on est obligé de sortir un petit peu de la presse BD. Là, dans le cas des profs, on va aller chercher la presse scolaire.
D'accord.
Mais aussi, pourquoi pas, la presse sciences humaines. Si c'est un album qui est en lien avec une actualité, comme Gilles l'expliquait avant, pourquoi pas se rapprocher aussi de la presse actualité qui pourrait s'emparer du sujet de cet album et en parler. Et donc, on se fait, disons qu'à partir du moment où cette réunion est en place, tous les mois, on se fait un petit point pour savoir où on en est chacun. Et parce que ça permet aussi de faire ce qu'on appelle un brainstorming, une tempête de cerveau.
Tempête de cerveau.
Une vraie tempête de cerveau pour se proposer des idées les uns aux autres. Le commercial propose des idées à la presse, la presse propose des idées à l'événementiel. Et comme ça, on travaille un petit peu tous ensemble.
Ok. Bon, et une fois, donc, si on reprend la réunion commerciale, si on devait donner une grosse étape après, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la fabrication ou est-ce que la fabrication a déjà commencé?
Au moment de la réunion commerciale, la plupart du temps, la fabrication n'a pas commencé. La plupart du temps, l'album n'est pas encore terminé. Il en est, au moment de la réunion commerciale, l'album en est aux 3/4 à peu près.
Ok.
Il reste un petit quart, donc en fait, même la plupart du temps, pendant les réunions commerciales, on nous passe donc des livrets pour montrer les planches des ouvrages, mais la plupart du temps, ils ne sont pas terminés encore. C'est vraiment pour nous donner vraiment un ton, une ambiance album, et qu'on puisse se faire une idée.
Ok. Du coup, par rapport à la fabrication, J'ai mes étapes, du coup je pense qu'elles ne sont pas forcément nickel.
Non, allons-y.
Après, par rapport à la fabrication, déjà c'est qui pour Bambou Édition ou pour les profs? Est-ce que c'est fait par un prestataire, j'imagine?
Oui, alors on travaille avec un prestataire pour... Alors, La fabrication, c'est encore un peu technique parce que on a ce qu'on appelle dans une maison d'édition un chef de fabrication qui s'appelle chez nous Olivier Pisson. C'est lui qui s'occupe donc de récupérer toutes les BD. Et en fait, un chef de fabrication est là pour négocier les tarifs du papier au meilleur prix.
D'accord.
Donc l'idée, c'est bien évidemment de, si tu envoies un seul album après album, tu n'auras jamais de prix avec les imprimeurs. Mmh. Alors que si tu t'arranges pour envoyer plusieurs albums qui auront le même papier, donc qui feront que tu ne vas pas piocher dans 5 papiers différents, à ce moment-là, tu commences à pouvoir faire réduire tes frais, faire réduire tes coûts.
Ouais.
Et c'est là que commence une espèce de bataille entre l'imprimeur et le chef de fabrication. L'imprimeur qui hurle parce que il ne gagne pas un sou en faisant ça, et le chef de fabrication qui lui dit « Mais si, il faut que tu me fasses ce prix-là absolument. »
D'accord, je le vois.
C'est un métier très très intéressant parce qu'il faut avoir autant la fibre artistique qu'une fibre commerciale très très forte.
À la fois optimiser et garantir maintenir la qualité artistique.
Voilà, c'est ça. Ou s'il te dit, alors attention, c'est absolument pas des vrais événements qui se sont passés, mais si l'imprimeur te dit, ça va te coûter deux fois moins cher, mais par contre, on va imprimer en Chine et sur du papier dégueulasse. Mais ça te coûtera moins cher, là c'est à Olivier Pisson de dire non, nous on veut toujours la même qualité de papier, mais on veut payer moins cher quand même, tu vois. C'est vraiment une vraie relation de commercial, et en même temps il faut avoir un affect très fort par rapport au livre, parce que il faut que tu te mettes à la place du lecteur qui, quand il va prendre son livre, se dise pas waouh, mes pages se détachent, la couverture est en train de se détacher, le papier n'a aucun grammage, ça sert à rien, quoi.
Pour passer à la partie plus commerciale, donc la tienne en fait, si j'ai bien compris, donc le commercial, c'est justement celui qui va déterminer le nombre de tirages de chaque album, et peut-être qui va du coup avoir des échanges avec les représentants.
Ouais, c'est ça. Alors le commercial, on va dire que c'est le poste au-dessus. Donc le commercial travaille avec ses représentants. Ce qu'on appelle la diffusion. Pour donner l'exemple de Bambou, nous, on a créé notre propre diffusion il y a 2 ans. Donc, la diffusion, c'est l'ensemble des représentants. C'est-à-dire, nous, on en a 8 dans la France. Ils ont chacun une région à proprement parler.
Ouais.
On a notre représentant du Nord-Pas-de-Calais, celui de Paris. Ils vont voir l'ensemble des libraires de la région et ils présentent le programme. En disant, on a le nouveau tome des profs, par exemple, qui est sorti. Combien tu m'en prends ? Le libraire annonce un chiffre. Le représentant lui dit, non, prends-en plus. Et il y a une petite bataille qui commence à se créer entre le représentant et le libraire à ce moment-là. Une fois que tout est fait, une fois que le représentant a vu l'ensemble de son, je sais plus comment on appelle ça, de tous ses libraires de la région, il revient en fait avec ses chiffres. Les envoie au commercial en disant en estimation, pour le moment, tous les libraires de cette région ont dit qu'ils allaient commander de l'album. Après, c'est le rôle du commercial d'ajuster ça, parce que forcément, il y a de la perdition entre ce que les libraires disent qu'ils vont prendre et ce qu'ils arriveront à vendre en librairie. Donc le commercial est là pour ajuster, histoire qu'on n'imprime pas trop non plus, mais surtout qu'on ne se trouve pas en situation où on n'a pas assez imprimé. Parce que ça, c'est limite ce qui peut arriver de pire pour un ouvrage. Même si on pourrait penser comme ça que d'être en rupture de stock, c'est une bonne chose. En fait, c'est une très mauvaise chose, parce que si votre ouvrage il se retrouve en rupture de stock au bout de 2 jours, mine de rien, pour réimprimer un bouquin, il faut bien 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'il soit livré. Donc on a carrément largement le temps pour que les lecteurs qui n'ont pas trouvé l'ouvrage l'oublient complètement, et que du coup, quand votre réimpression arrive, plus personne n'en veuille. Et du coup, là, tu te retrouves avec un surstock de plus.
Parce que c'est long, le processus de d'impression
Ça peut aller très vite en fonction de la situation, ça peut aller très très vite, mais en même temps, si tu veux exactement la même qualité de papier, si par exemple, si pour avoir cette qualité-là, il a fallu que tu ailles trouver un imprimeur en Espagne, Et bah, du coup, l'impression peut aller vite, mais par contre, l'acheminement des ouvrages, lui, il pourrait être plus long. Donc vraiment, le commercial, c'est une espèce d'équilibriste entre nos projections. Les projections, nous, voilà, on pense que c'est un enjeu, donc on va en vendre plein. Et la réalité du terrain que son équipe de diffusion lui rapporte, et il doit trouver un juste équilibre là-dedans et toujours avoir l'œil sur les stocks qui sont en train de sortir toutes les semaines des caisses pour regarder si on ne va pas tomber en rupture dans peu de temps.
Ok. Bon, et après, il y a la partie plus marketing. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça. Il s'agit de faire de la publicité dans la presse et dans les lieux de vente, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Tu viens exactement de résumer les deux axes. T'as d'une part la publicité, donc télévision, radio, presse, et t'as aussi ce qui est très important, la publicité dans les librairies. Et la publicité dans les librairies, ça passe souvent par ce qu'on appelle des PLV.
Ouais.
Des publicités sur les lieux de vente qui sont des totems à l'effigie de nos séries pour les mettre un petit peu plus en avant et que les lecteurs puissent les voir dès leur entrée en magasin.
Et quid des réseaux sociaux, juste des trucs urbains dans la rue
Alors si, dans la rue, ça se fait encore beaucoup. Au niveau des réseaux sociaux, bon, bah, c'est quand même un métier qui est arrivé très récemment. Ouais. Le community management, je parle du community management, mais c'est aussi les achats pub sur Internet. Mmh. Et c'est une nouvelle corde qui arrivait dans les métiers de l'édition. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé il y a 10 ans. C'était l'arrivée de Facebook à proprement parler. Le poste de community manager n'existait pas du tout.
Ouais.
Alors au début, c'est des postes qui ont été... que tout le monde a assuré à moitié, mais en même temps, on ne savait pas vraiment à quoi correspondait ce poste-là, vu que c'est censé être une interface avec le public. Tout le monde est censé pouvoir te parler directement, venir t'interpeller, donc ça te fait un lien fort. Et ces dernières années, on a tous été témoins de l'importance des réseaux sociaux. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, il y a de véritables postes de community manager qui se sont faits, mais il y a encore... 4-5 ans de ça, c'était souvent les relations presse qui s'occupaient à moitié du community management pour répondre aux gens. Maintenant, il y a un vrai défi à ce niveau-là, que ce soit en bande dessinée, mais en manga, en comics aussi, vu que c'est des lectorats qui parfois sont plus jeunes pour le manga ou pour le comics. Souvent, ils ne sont que sur les réseaux sociaux. Donc, si on veut les capter, on est obligé de passer par les réseaux sociaux.
Et donc, toi, tu es chargé de relations presse?
C'est ça.
Est-ce que tu peux du coup, nous présenter un peu le métier et notamment comment il s'articule à Bambou en particulier?
Alors, c'est le terme précis, c'est attaché de presse.
Ah, oui.
Donc, mon métier, moi, c'est de faire la promotion des albums à travers les médias. Donc, il s'articule de manière très simple. On a La clé de voûte du métier d'attaché de presse, c'est son fichier de journaliste. Il y a énormément de journalistes en France, très peu qui parlent de bande dessinée. Par contre, ça ne veut pas dire que d'autres journalistes ne sont pas susceptibles d'en parler. Donc, le cœur de notre métier, c'est vraiment de développer un fichier presse avec le maximum de journalistes possible et surtout d'affiner au maximum tes relations avec les journalistes. D'une manière très basique, notre métier consiste on nous donne un bouquin, le nouveau bouquin. On se dit je vais l'envoyer aux Parisiens, au magazine aux Parisiens, et peut-être ils vont en parler. Sauf que bien évidemment, c'est plus compliqué que ça. Il faut que tu saches qui s'occupe de la bande dessinée aux Parisiens. Il faut que tu le rencontres, il faut que tu parles avec lui, et faut que tu arrives à identifier aussi le genre de bande dessinée qu'il aime bien. Et ça, ça nécessite d'avoir un relationnel avec lui. Parce que si tu lui envoies toutes les BD de ton catalogue, au bout d'un moment, il va se retrouver noyé et il va juste se dire « Ok, Nazir ne me comprend pas du tout dans mes lectures, en fait. » Alors que quand tu commences à développer une relation avec un journaliste, tu sais que cet album, c'est pour lui. Cet album, c'est pas la peine. Ça lui conviendra pas. Et donc, c'est... en partie faire la promotion des albums, mais c'est aussi, et c'est comme ça que tu affines en fait ton réseau de journalistes, en sachant exactement ce que chacun aime et ce que chacun n'aime pas.
Ok, c'est très interpersonnel au final.
Ouais.
Ok. Génial. Et du coup, dernière partie de cette pôle commerciale, c'est la présence, enfin la partie événementielle, la présence en salon et en dédicace. À quel point, question naïve, hein, question bête, mais à quel point c'est important pour une BD comme Les Profs ?
En fait, moi, en tant qu'auteur, j'ai jamais vraiment su si les festivals c'était utile pour l'éditeur ou pas. À part les gros, non mais parce que là, par exemple, il y a des gros festivals comme Angoulême, Saint-Malo, où l'éditeur est présent, il a un stand, et effectivement, c'est une façade, c'est important. Mais des festivals de BD, en fait, en France, il y en a, je sais pas. Il y en a 200 en tout, quoi. Il y en a plus.
Toutes les semaines, il y en a.
Il y en a plus d'un par semaine. Et en fait, souvent, la plupart des auteurs en font pour voir les lecteurs, pour voir les copains et accessoirement pour vendre des livres. Mais on a jamais vraiment su si c'était important ou pas. C'est vrai, en plus.
C'est génial.
Je pense que c'est quand même une image. C'est-à-dire que ça permet déjà d'aller dans des endroits où ça peut attirer des gens à la BD, des gens qui n'en lisent jamais, mais parce qu'il y a un salon dans leur patelin, ils vont venir voir ce que c'est, quand même. Mais là, je parle plus en tant qu'auteur. En tant qu'éditeur, finalement, je sais que, par exemple, Olivier, il n'est pas forcément pour que ses auteurs passent leur vie en salon. Parce que c'est vrai qu'un auteur qui fait beaucoup de salons, c'est quand même fatigant, il y a des trajets, il y a des voyages. Et c'est vrai qu'après, il lui faut un certain temps pour se remettre de sa semaine.
Et pendant ce temps-là, il n'avance pas sur son album.
Et pendant ce temps-là, il peut éventuellement prendre du retard. Etc. Bon, après, je dis ça un peu en rigolant, mais c'est toujours effectivement un moyen de diffuser l'existence d'une série, d'un album. Parce que il n'y a pas une région en France où il n'y a pas ces 4-5 salons de BD. Ouais. Quoi.
Bon, justement, en 2000, donc, au festival d'Angoulême, il y a le tome 1 donc, des profs, Interro Surprise, qui remporte l'Alphard Jeunesse 9-12 ans du meilleur album. Déjà, bravo. Et quelle est l'importance de ce prix dans la visibilité, peut-être, dans la légitimation et...
Je ne sais pas aujourd'hui. Il y a toujours des prix donnés à Angoulême. Hein.
Ouais.
Je pense qu'à l'époque, pour nous, ça a été énorme.
Ouais.
Mais vraiment. Parce que nous, on n'était pas trop connus, Bambou non plus. Et alors, l'intérêt du prix jeunesse, c'est que ce sont des lecteurs. Alors, à l'époque, je ne sais pas comment ils avaient reçu de BD de tous les éditeurs. Je sais pas, il y a déjà une première sélection, mais enfin, ils avaient donc un certain nombre de bouquins à lire, les gamins, et ils ont voté pour leur préféré. Donc, on était en concurrence avec des grosses maisons d'édition. Donc, nous, et notamment Olivier, il s'est retrouvé distingué au milieu de... nous, on était distingués, ça nous a évidemment fait plaisir, mais lui, en plus, comme petite maison d'édition qui débutait, c'était super intéressant. Et puis, quand il y a eu une réimpression du tome 1, il y avait un petit sticker dessus, ouais. Angoulême, je pense qu'à l'époque, ça avait encore vraiment une importance. Encore une fois, je ne sais pas si aujourd'hui, je pense qu'il y a certainement des albums qui se vendent parce qu'ils ont eu un prix Angoulême, ok. Mais nous, en tout cas, on a vraiment vu un effet évident. Déjà pour le fait que dans ce cas-là, les libraires vont reprendre des albums, parce qu'il y a effectivement une petite distinction, il y a un petit sticker dessus. Voilà.
Ok. Pour finir donc sur la partie édition, on a rapidement évoqué la diffusion. Je sais que donc jusqu'à 2017, c'était Del Sol le diffuseur et que depuis, vous êtes votre propre diffuseur.
C'est ça.
Et j'ai vu dans Actua BD, j'ai lu plutôt, que c'était présenté comme un facteur clé de réussite dans le métier. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que ça change concrètement.
Alors en fait, c'est parce que dans l'économie du livre, en fait, la diffusion, c'est peut-être ce qui coûte. C'est peut-être l'un des aspects qui est le plus coûteux, en fait. Parce que avoir une diffusion, c'est vraiment une grosse machinerie. C'est, comme je te disais, une dizaine de personnes que tu envoies à travers toute la France consulter tous les libraires de France. Et quand je dis tous, y a quand même quelques petits manquements. Et en fait, avoir un diffuseur, c'est une grosse partie, en fait, de dépenses. Et dans l'idée d'Olivier, donc on était avec Del Sol, et ça s'est toujours très bien passé avec Del Sol, c'était absolument pas un problème avec eux. C'est juste qu'à un moment, il a voulu passer un palier, de se dire, j'ai ma propre diffusion.
et surtout parce que ça permet de mieux contrôler la manière, pas contrôler, maîtriser la manière dont tes bouquins vont être vendus. Dans le cadre d'Elsol, c'est un diffuseur qui diffuse plusieurs maisons d'édition, mmh. et qui sont des maisons d'édition qui sont concurrentes. Hein. Donc dans le cadre d'Elsol, c'est Delcourt, Soleil. Donc forcément, c'est un représentant qui arrive et qui te présente au moins 5-6 maisons d'édition différentes. Comme je te dis, qui sont concurrentes parfois. Là, dans le cas de nos, dans le cas de notre force de diffusion, nos reprêts ne présentent que du bambou. Ils ne font que ça. Enfin, bambou, grand angle, flux glacial, mmh. Doki. Et du coup, c'est mine de rien, bah, ça t'apporte une réalité de terrain qui est complètement différente en fait. On n'est pas noyé dans des catalogues avec des maisons d'édition plus grosses que les nôtres, où ils peuvent se dire bon bah là ce titre il est moins important pour Bambou ou autre. Là en fait c'est nous qui lirons notre propre force de diffusion. Si on dit à nos représentants balancez tout sur cet album là, on peut être sûr qu'ils vont le faire en fait. Ouais. Alors que si chez Delsol la personne de Soleil leur dit balancez tout sur cet album et que le gars de Soleil leur dit balancez tout sur cet album et que le gars de l'autre maison d'édition va aussi dire balancez tout sur cet album. À un moment, le repris, il va plus savoir quoi faire, il peut pas tout balancer sur 5 maisons d'édition. Alors que les nôtres, pour le coup, en fait, on parle que d'une seule voix.
Bon, et la partie vente, quel rapport ont les vendeurs aux profs est-ce que la distinction librairie, grande surface spécialisée et grande surface, parce que vous êtes dans les grandes surfaces, est-ce que vous voyez une grosse différence dans le traitement qu'ils ont, la façon de le vendre
Alors,
question précise. Hein,
ça, je sais pas. Alors là, j'ai aucun avis. Enfin, j'ai aucun avis. T'en as
un peu. Les profs font justement partie de ces bandes dessinées qui se vendent très très bien en hypermarché parce qu'elles sont très populaires en fait. Et elles font partie de ces séries à gros succès chez nous, comme Les Sisters, qui sont des BD hyper populaires. Et dans les hypermarchés, qu'est-ce qu'on rencontre le plus? C'est souvent des familles. Et du coup, le public est souvent là. Par contre, nos albums Grand Angle, qui sont plus des romans graphiques, ouais. ils n'ont pas vraiment leur place dans des hypermarchés. C'est des albums qu'on trouvera plus en librairie, où là, il y aura besoin d'un apport conseil libraire, si tu veux.
Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. On est avec Erok et Nazir et on parle de la BD Les Profs. Est-ce que vous avez un ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un donc, qui voudrait écrire pour la bande dessinée et qui voudrait travailler dans l'édition et peut-être dans la communication en relation presse? Alors, des choses à faire ou à ne pas faire d'ailleurs.
La bande dessinée, en fait, le problème, c'est que c'est pas... de mon point de vue, c'est une période difficile. C'est vrai que c'est une période difficile pour les auteurs. C'est une période difficile parce que, pour plein de raisons, disons, internes à notre métier. Mais d'un autre côté, quand quelqu'un vient me voir, un gamin qui a 14-15 ans, je ne vais pas lui dire, oh, tu sais, quelle galère. Donc, je suis toujours ultra positif. C'est-à-dire que, parce que de toute façon, quoi qu'on dise, il y a des nouvelles séries, il y a des nouveaux auteurs, heureusement, oui. Et voilà. Donc, moi, les conseils que je donne, c'est souvent des ados, donc je leur dis déjà de ne pas s'affoler, quoi, de continuer à travailler. Mmh. C'est-à-dire que alors, les gamins qui viennent me dire, disant, ouais, mais moi, je peux faire de bande dessinée parce que je ne sais pas dessiner, je leur dis, bah, pose-toi la question. La bande dessinée, ce n'est pas que du dessin, c'est du scénario. Et peut-être que tu ne sais pas dessiner, mais que tu as plein d'idées, que tu pourrais écrire. Parce que souvent, chez les jeunes, la BD, c'est du dessin. Ils ne pensent pas vraiment qu'on peut être juste scénariste. Donc... je dessine pas bien, donc je peux pas faire de la bande dessinée. Donc moi, les conseils que je donne aux gamins, c'est de continuer à dessiner, pour ceux qui dessinent, parce qu'on sait bien que très vite, il y a des moments où ils vont passer à autre chose. Ils vont vouloir devenir,
youtubeur.
Youtubeur, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, c'était mieux. Non, les conseils, c'est de montrer ce qu'on fait aux professionnels quand on ne l'est pas. Parce qu'ils peuvent être de bons conseils. Mmh. Et les conseils que je donne là aux parents, c'est ça ne sert à rien de montrer les dessins de vos enfants qui ont 11 ans. Parce que Parce qu'on ne peut rien en dire. Mais par contre, alors oui, ce que je leur dis aux gamins qui s'intéressent à la bande dessinée, c'est de ne pas se braquer sur la bande dessinée. C'est d'apprendre à dessiner, c'est de faire une école. C'est de, c'est, s'ils aiment le dessin, c'est d'ouvrir la palette le plus large possible et ne pas se cantonner à « je veux faire de la bande dessinée ». Déjà parce qu'ils changeront peut-être d'avis, puis parce qu'il y a plein d'autres possibilités, d'autres voies... peut-être plus porteuse aujourd'hui que la BD, et autant pas s'enfermer dans quelque chose. Quoi.
Ok.
Et de mon côté, je dirais que déjà, dans tous les cas, si on veut se lancer dans l'édition, alors que ce soit la communication ou pour un autre secteur, je dirais de s'y intéresser très tôt. De commencer à les glaner des renseignements très tôt, parce qu'en fait, dans tous les corps de métier, les gens sont prêts à donner des conseils et à expliquer, et de multiplier les stages pour savoir si vraiment c'est quelque chose qui intéresse. Et surtout, ne pas hésiter à faire tous les corps de métier, enfin, peut-être pas tous, mais d'aller voir vraiment un petit peu, parce qu'en fait, une maison d'édition, il y a vraiment plein de métiers différents, et de ne pas hésiter à aller voir ce que chaque métier apporte, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça ne te plaît pas. Et on pense à tort parfois que le milieu de la bande dessinée, c'est un milieu fermé. Mais en fait, il n'est pas fermé. Il est réservé aux gens qui sont assidus. Et par contre, une fois que tu y as mis un pied, oui, après, il faut tout faire pour y rester, pour te rendre indispensable. Mais voilà, en tout cas, se lancer très, très tôt, parce que c'est un super métier. Et c'est un métier qu'on fait avec passion. Mais je trouve que c'est une bonne chose de le découvrir très tôt et de ne pas hésiter à aller travailler en librairie, voir à quoi ça ressemble, de ne pas hésiter à aller travailler aussi dans les stocks des gros diffuseurs, de ne pas hésiter à voir toute la palette de ce que ça peut offrir. En fait, je suis en train de répéter exactement ton conseil, de ne pas s'enfermer, de juste se dire en fait les métiers du livre c'est hyper large, donc faut vraiment pas hésiter à aller se renseigner, à aller fouiner. Les gens sont toujours hyper contents de pouvoir donner des conseils à ce niveau-là.
Ok, ouverture et curiosité. Donc.
Ouverture et curiosité tout le temps.
Super. Eh ben merci, merci beaucoup, merci à vous deux.
Merci à toi.
Eh ben merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et même si vous n'avez pas tout écouté, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager l'épisode à d'autres personnes que cela pourrait également intéresser. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram, vous abonner et laisser un avis sur Apple Podcast ou sur l'un des autres médias et applications de podcast que je risque d'utiliser prochainement. Retrouvez aussi l'heureux processus un dimanche soir par mois sur Radio Campus Paris de 21h à 22h.